Vous écoutez
RMC. Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'after en direct sur RMC, 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. Coach Courbis est là, salut Roland.
Re-salut à tous.
Et Kevin Diaz nous rejoint, salut Kevin.
Salut à tous.
Grosse journée de Ligue 1. Je vous rappelle qu'on ne jouera pas demain, dimanche 5 mai, en hommage aux victimes du drame de Furiani. 4 matchs ce soir et le match nul concédé par Brest contre Nantes, 0-0. Je vous attends, mes Brestois, mes Nantais, le 32-16. Pour venir débriefer cette rencontre. On en reviendra également sur la victoire contestée de Rennes à Metz, 3 buts à 2. On écoutera notamment la Slobodanie furieux contre l'arbitrage. Monaco a assuré sa place dans le top 4 en dominant Clermont 4 buts à 1 et Le Havre a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant contre Strasbourg 3 buts à 1. On vous attend, supporters de ces clubs, au 32-16. Les drôles de l'âme seront là également en fin d'émission. Grosse journée aujourd'hui à l'étranger puisque le Real Madrid est officiellement champion d'Espagne. Un peu grâce à sa victoire contre Cadix 3-0 et aussi beaucoup grâce à la défaite du Barça contre Gérone 4-2. Le Barça qui recule d'ailleurs à la troisième place derrière Gérone. On sera également avec Paulo Breitner puisque le Borussia Dortmund a joué aujourd'hui 3 jours avant la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Paris. Victoire 5-1 contre Augsbourg avec une équipe B. 10 changements, 10 remplaçants étaient là au coup d'envoi et Dortmund a cartonné. Et puis en Angleterre dans la course au titre, statu quo, victoire d'Arsenal contre Bournemouth 3-0, victoire de City 5-1 contre Wolverhampton, toujours un point d'avance pour Arsenal sur City, mais Manchester City a un match de moins que les Gunners. Vous dire qu'on vous attend au 32-16 sur tous ces sujets, que je vous lis sur le Direct Studio sur YouTube, la chaîne de l'After @after-foot, merci d'être là, vous pouvez venir nous voir et commenter. Et puis juste avant de démarrer à 22h55, on a un direct ce soir, il y aura également un direct demain soir, c'est la Formule 1, le Grand Prix, c'est demain à 22h sur RMC. Dans quel ordre de départ? Réponse maintenant avec Jean-Luc Roy, l'épilogue de la séance de qualification à Miami.
Ah oui, c'est absolument maintenant, Thibaut, puisqu'il reste 22 secondes exactement dans le cadre de cette Q3. Nous allons savoir qui va décrocher la pole. Pour le moment, elle est aux mains de Verstappen. Verstappen, ce serait la 6e pole position consécutive en cette saison 2024. Ce serait la 38e de sa carrière de pilote de Formule 1. Ce serait la 101e de Red Bull. On va attendre évidemment que tous les pilotes soient passés sous le drapeau d'Amier, puisque certains sont en amélioration maintenant. C'est le cas de Sergio Pérez, l'équipier justement, qui est pour le moment 5e avec la Red Bull, mais qui est le plus rapide dans le 2e secteur. Donc il est en mesure peut-être d'améliorer son chrono. Verstappen avait signé le meilleur temps dans le 1er secteur. Lui, il est pour le moment dans le 2e. On l'attend dans le 3e. Le temps officiellement est parti maintenant terminé, mais naturellement les pilotes vont terminer cette dernière boucle et c'est à l'issue de ces dernières performances et des derniers virages que nous aurons la grille de départ de ce Grand Prix. Je vous rappelle que Verstappen avait été l'homme qui avait signé la pole pour la sprint race, la course qui s'est disputée hier soir. Et puis on a eu Charles Leclerc qui était sur la même ligne. Leclerc est pour le moment 2e temps. Carlos Sainz avec la Ferrari est 3e. On en a terminé, je crois, du côté de Verstappen, 1:27.241. Il n'a pas amélioré dans sa dernière tentative, mais pour le moment il resterait devant parce que je me rends compte que Leclerc n'a pas amélioré dans le premier secteur, pas amélioré dans le deuxième, pas amélioré dans le troisième. Donc la menace ne vient pas de Leclerc. Sainz peut-être. Sainz n'a pas amélioré non plus, ni dans le premier. Voilà, c'en est terminé. Je pense qu'a priori, on attend maintenant peut-être Pérez. Pérez est dans le 2e secteur pour le moment, mais non, il n'améliore pas non plus dans le premier. C'est terminé pour Pérez, terminé pour Norris. Et à signaler que du côté des Mercedes, on a tenté un coup en montant les pneumatiques médium, comme l'avait fait tout à l'heure Norris. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Voilà la grille. Thibaut, je peux te la donner. Verstappen a signé donc la 38e pole position de sa carrière de pilote de Formule 1, la 6e pole consécutive, un début évidemment absolument parfait pour le pilote hollandais, peut-être en route vers son 4e titre de champion du monde. Il aura à ses côtés Charles Leclerc, c'était le cas avec la Ferrari, c'était le cas de la Sprint Race. Sur la 2e ligne, on va trouver Carlos Sainz avec l'autre Ferrari, 3e temps. Sergio Pérez sera 4e temps, donc les deux premières lignes avec une Red Bull, une Ferrari. Sur la 3e ligne, on trouvera les deux McLaren, dans cet ordre, de Lando Norris et d'Oscar Piastri. La quatrième ligne, et on a vu la déception se lire sur le visage de Toto Wolff il y a un instant, sera pour George Russell et Lewis Hamilton. Et la cinquième pour Hülkenberg et Tsunoda. Le onzième, c'est Stroll. Et je vous rappelle que les pilotes français, légère amélioration. Pierre Gasly sera 12e sur la grille de départ et Esteban Ocon 13e.
Merci Jean-Luc Roy. Tu me soignes cette petite voix et on se retrouve demain à 22h.
Je vais faire mieux demain.
Pour le départ de ce Grand Prix de Miami en direct sur RMC. 23h02. C'est l'alerte. Le moment pour vous de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC au Parc des Princes et gagner vos places pour PSG Dortmund mardi. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant PSG par SMS au 7-32-16. Bonne chance à tous. Juste avant les 3 points, les 2 matchs à l'étranger du soir. Surprise en Italie où l'Inter, championne, a été battu par Sassuolo 1-0. Et puis en Espagne, l'Atlético de Madrid s'est imposé à Mallorca 1-0. Les drôles de dames tout à l'heure, tout de suite, c'est le plus important sur RMC.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin, tes 3 points ce soir, qu'est-ce que tu retiens de cette journée?
Bah écoute, c'est quand même le bon point pris par Nantes, en tout cas ce soir, parce que c'était un point très important qui leur donne quand même 4 points d'avance sur la zone rouge, ce qui n'est vraiment pas négligeable au vu des derniers mois pour le FC Nantes. En deux, bah je vais retenir je vais pas dire le coup d'arrêt, mais quand même la petite contre-performance de Brest qui du coup laisse Lille avec son destin entre les mains, c'est-à-dire que si Lille venait à gagner ses 3 derniers matchs, qui sera loin d'être facile parce qu'ils ont des beaux adversaires, mais en tout cas ils pourraient perdre cette troisième place. Et en trois, bah c'est quand même la belle victoire du Havre qui cet après-midi a fait un grand pas au minimum vers le barrage, et je pense même, peut-être, je leur souhaite en tout cas, vers le maintien.
L'important, c'est les 2 points pour Roland. Comme toujours.
Ben écoute, je regarde notre Ligue 1 et je la trouve passionnante. Beaucoup de points d'interrogation. J'en ai sélectionné 2. Qui terminera 4e, ben ça me passionne, et j'ai pas la réponse, donc je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Et ensuite, qui terminera barragiste? En ce qui concerne les Messins qui peuvent être déçus, je pense que compte tenu de là où ils étaient il y a 2-3 mois, faire les barrages, ça serait pas une catastrophe, ça serait pas non plus impossible de se sauver, je dirais même le contraire. Et en ce qui concerne notre Ligue 2, ben j'espère pour nos amis stéphanois qui ne regrettent pas le match d'aujourd'hui, parce que perdre 2 points, je dis bien perdre 2 points, hein, donc dans justement la possibilité d'en gagner 3 en menant 2-0, ben je leur souhaite de pas regretter ça, parce que cette remontée, elle est suffisamment extraordinaire pour que vraiment qu'elle puisse pas s'arrêter. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter.
Saint-Etienne qui menait 2-0 à Guingamp, qui a fait 2 partout, qui reste 2e ex-aequo avec Angers de Ligue 2, et Auxerre a battu le PFC 2-0, 70 points. Auxerre quasiment voilà, un pied et quasiment tous les orteils en Ligue 1, puisqu'il ne s'agit que d'une histoire de différence de but qui est largement à la faveur des Auxerrois. Commençons sur ce Brest nul, ce Brest-Nantes nul, 0-0, et qui, vous en parliez, Kevin et Roland, au classement, les Brestois 3e, 57 points, 4 points de retard sur Monaco, désormais pour la 2e place, 2 points d'avance sur Lille, qui peut passer devant lundi soir, les Lillois recevront Lyon. Et pour les Nantais, 14e, 33 points, c'est 4 points de mieux que Metz, le barragiste. Sur ce Brest-Nantes, Kevin et Roland, difficile d'analyser ce match sans tout de suite dire qu'en première période, Pierre Lesmélou est sorti sur blessure, Del Castillo est sorti sur blessure, et comme par hasard, Brest n'a jamais ou presque été en mesure d'inquiéter vraiment les Nantais et d'aller gagner.
Ouais, même si je sais pas ce qu'en a pensé le coach, mais en tout cas je trouvais quand même Nantes qui a fait un match correct quand même, avec des occasions aussi, hein, des grosses occasions, notamment en première mi-temps, avec
plus Ablin, que les Brestois même, hein,
ouais, ouais, avec Ablin qui doit au moins marquer celle où il dribble le gardien et derrière il tire au dessus, mais sinon bah forcément Brest, ça fait partie de ses équipes, mais c'est pas les seuls, hein, on le dit souvent quand même de l'OM aussi, quand il te manque tes 2-3 meilleurs joueurs derrière, c'est quand même forcément compliqué, c'est logique, c'est déjà un club qui fait des miracles depuis le début de saison. Mais forcément, quand tu as ton métronome au milieu de terrain et ton déclencheur en Del Castillo qui se blesse, derrière c'est quand même beaucoup plus difficile de mettre en difficulté une équipe de Nantes qui, comme je l'ai dit, a fait un match comme sait le faire l'équipe d'Antoine Gomboiré, c'est-à-dire solide, en concédant, allez, disons pour une équipe qui joue le maintien, peu d'occasions, et en étant tout proche de marquer ce but qui leur aurait carrément assuré le maintien.
Oui, c'est vrai, Roland, sur le papier, c'est une mauvaise opération pour les Brestois. Les Brestois, c'est ce qu'on aurait dit avant le match. Mais quand tu vois le contenu, la tournure des événements, la sortie des, de leurs deux meilleurs joueurs,
non,
on s'en sort pas mal avec ce
comme je disais tout à l'heure, sans revenir à ce qui s'est passé il y a 3-4 semaines ou il y a 3-4 matchs, simplement sur les deux derniers matchs. Cette victoire à Rennes dernièrement, à la dernière minute, 5-4, alors que c'était 4-2, 4-3, 4-4, et puis après 5-4. Bon. Et avec les deux joueurs importants qui se blessent, faire match nul contre le Nantes de ce soir, et prendre 4 points sur les deux derniers matchs, je trouve que premièrement, c'est pas catastrophique, c'est même très bien. Et vu le calendrier et les deux derniers matchs de Brest, que Lille puisse gagner les trois derniers matchs, c'est possible, mais j'attends de voir ça avec impatience. Et déjà lundi, battre Lyon, c'est pas simple du tout. Donc, on va encore assister à des matchs avec beaucoup de suspense et notre championnat finalement est passionnant.
Brest qui recevra Reims la semaine prochaine avant de terminer sa saison à Toulouse. Jacques nous appelle au 32-16, supporter brestois. Salut Jacques, bienvenue dans l'After.
Ouais, bonsoir à vous tous.
Salut Jacques.
T'étais au stade ou pas?
Ouais, tout à fait, j'étais au stade. Ouais.
D'accord.
Je sors du stade là.
Ah, maintenant t'es au pénalty?
Non, je suis à proximité.
C'est le bar à côté, c'est ça?
Je peux pas vous dire pourquoi. Non, pas du tout. Je peux vous dire pourquoi, mais je suis à côté.
Bon. Qu'est-ce que t'as pensé du match de ce soir, Jacques? Est-ce que tu partages le fait de dire que sur le papier, c'est pas un bon résultat, mais finalement, vu comment ça s'est passé, il est peut-être pas si mal ce point?
Vous avez à peu près tout dit, hein. Avant le match, on pensait faire quelque chose d'intéressant, hein. On joue reçoit Nantes, on reçoit Reims. On va à Toulouse, ce sont des équipes qui sont à notre portée. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est vrai qu'en première mi-temps, on perd Del Castillo, on perd Les Mélou, qui sont vraiment les maîtres d'hommes de notre top équipe, qui lance un peu le jeu, quoi. Et Nantes a été également très performant en première mi-temps. Je veux dire, ils ont eu quand même des actions très dangereuses. Heureusement qu'ils sont maladroits, parce que sinon... À la mi-temps, le score n'aurait pas été nul. Par contre, en deuxième mi-temps, les deux équipes se sont tenues, entre guillemets, quoi. Donc, on est quand même content de terminer avec un match nul ce soir.
Est-ce que tu as peur de finir quatrième? Est-ce que ça t'inquiète d'éventuellement finir quatrième? Est-ce qu'on en est là, à Brest?
Non, on n'a pas peur de terminer quatrième. On est content de faire ce qu'on a fait cette année. Maintenant, on devient gourmand, bien sûr, au fur et à mesure, hein. On est sur le podium depuis un moment. On aimerait bien terminer troisième, mais bon, si on doit terminer quatrième, on termine quatrième, cinquième. Mais comme on est sur le podium depuis un moment, on aimerait bien y rester. On espère que les Lyonnais feront quelque chose à Lille.
Et ce sera lundi soir sur RMC. Merci Jacques, bonne soirée à toi.
Bonne soirée à bientôt.
Salut Jacques.
Et allez Brest.
C'est entendu, merci Jacques. Brest qui concède le nul 0-0 face à un bon FC Nantes qui ce soir, grâce à ce point, valide une chose, c'est celle de terminer au pire barragiste. Voilà, ce sera pas une relégation directe pour les Nantais qui ont ce soir, je disais, 4 points d'avance.
Sachant que les barrages avec Camboré, ça leur a plutôt réussi la dernière fois.
Oui.
Face à Toulouse.
Effectivement. Les Nantais qui ont 4 points d'avance sur les Messins. Je rappelle, et on en parlera dans quelques instants, les Messins qui auront notamment le PSG à jouer d'ici la fin de la saison. La saison, vous l'avez dit dans vos points, Kevin, c'était ton point numéro 1. Bon match des Nantais ce soir. Un Nantes différent en plus, hein. Il y a eu pas mal de changements opéré au coup d'envoi. Chiri Vela qui n'était pas là. Bon Mollet, même si c'est plus un habitué du banc. Mais
oui, et puis surtout, c'était dans l'état d'esprit quand même. Il y avait un petit peu plus d'allant. Alors même si dans le dernier match, il manquait quand même pas mal de joueurs offensifs dans cette équipe du FC Nantes. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a une équipe presque qui doit s'imposer, pas forcément sur la position de balle, mais en tout cas sur les occasions, comme je l'ai dit, c'est Nantes. Mmh. Et c'était quand même un match avec beaucoup d'enjeux, hein, beaucoup d'enjeux pour les Nantais. Là, ils s'enlèvent une belle épine du pied. Ils vont, je ne vais pas dire qu'ils vont finir en roue libre, hein, parce qu'ils ne sont pas encore maintenus, mais en tout cas, quand tu as maintenant un petit matelas, tu peux encore avoir un joker et gagner au minimum un match, ou même, je pense que même prendre un point là, ça devrait suffire pour pour te maintenir. Et
même, on leur souhaite pas, même zéro, ça peut suffire. Parce que
même zéro, ça peut suffire. Ouais, mais je veux dire, aujourd'hui, t'as quand même maintenant une soupape de sécurité qui va te permettre, je l'espère en tout cas pour les Nantais, de se maintenir. Et aujourd'hui, quand tu vois les occasions qui sont capables de se créer, mais on sait quand même que dans cette équipe, il y a des joueurs de qualité. C'est pas une équipe qui a joué la Coupe d'Europe et qui a fait un beau parcours l'an dernier pour la majorité pour rien. Donc maintenant, moi je tiens à les saluer parce que pas facile quand même de se rendre dans même s'il y a eu des absents ensuite à Brest parce qu'il y a eu des blessures, c'était pas facile quand même de se rendre à Le Blé dans une situation de grande difficulté au classement et d'arracher un point du match nul. C'est un très très gros résultat.
Nantes qui a un calendrier sévère en plus, hein, qui termine par la réception de Lille, les Nantais qui perdent tous leurs matchs à domicile depuis plusieurs mois, et un déplacement à Monaco pour terminer. C'est vrai, Roland, comme le dit Kevin, quand tu vois Nantes ce soir, et même quand tu les vois pas mal à l'extérieur cette saison, c'est une équipe qui a rien à voir avec Clermont ou Lorient. Enfin,
rien du tout, mais rien à voir non plus avec le Nantes à domicile.
Oui, c'est ça aussi. En fait,
c'est quand même.
Comment tu l'expliques?
C'est quand même inquiétant. Aucune explication. Donc, si ce n'est manque de confiance de certains joueurs. Ensuite,
après, il y a ce plan de jeu, quand même.
Je me rappelle, dernièrement, les Nantais à domicile, oui, à domicile, mais sans un spectateur, c'est plus du tout un avantage. Je pense même que c'est un inconvénient. Non, cette saison, il faut vite la terminer, se sauver. Antoine, une fois de plus, aura pris les points qu'il faut pour se sauver, ce qui n'était pas évident du tout quand il est arrivé. Et ensuite, si on regarde aussi le potentiel offensif de Nantes, il y a de quoi faire quand même une équipe qui peut poser des problèmes à beaucoup d'autres équipes.
On a Patrick qui est là, supporter nantais au 32-16. Salut Patrick.
Bonsoir à tous.
Bienvenue. Salut, sur RMC. Patrick. T'as fait un bon match ce soir, pas loin de regretter de prendre qu'un point, non?
Oui, bah évidemment qu'il y a des regrets de prendre d'un point, mais il y a aussi la grosse satisfaction de l'avoir pris, ce point. J'ai eu une équipe nantaise pleine d'abnégation, qui s'est battue, qui n'a rien lâché, qui s'est créé des occasions. Mais si avant le match, on m'avait dit, Patrick, que tu vas prendre un point à Brest, j'aurais signé directement, et je pense que je ne suis pas le seul, parce que beaucoup voyaient Nantes battue à Brest. Hein. Donc, c'est plutôt un très très bon résultat et je suis très satisfait du contenu parce que j'ai vu une équipe nantaise qui s'est créée des occasions, qui a bien défendu. Enfin, j'ai vu tout le contraire, comme l'a dit Roland, de ce qu'on voit à la Beaujoire.
Mais justement, alors, est-ce que toi, Patrick, tu as une explication? Nantes qui est une des meilleures équipes en 2024 à l'extérieur et qui est sur 9 défaites consécutives à la maison.
J'en ai une, après elle vaut ce qu'elle vaut. C'est que dès qu'on a commencé à enchaîner une, deux, trois défaites de suite, déjà, je suis allé quand même quelques fois à la Beaujoire, pas de chance. Moi, j'habite loin de la Beaujoire. J'y étais, il y a des fois où on a perdu contre Clermont, contre Metz et contre
Tu veux dire par là qu'ils se piquent au jeu, comme ils veulent battre un record extraordinaire de toute l'histoire du club.
Ce serait un record stupide, mais enfin bon. Non, mais je pense que les joueurs, au fur et à mesure des contre-performances qu'ils ont faites à la Beaujoire, d'abord, ils ont été quand même, par moments, après les matchs sifflés, pris à partie par une partie du public, je le précise, et je pense que plus les matchs avancent à la Beaujoire, plus cette équipe elle est immunisée quand elle arrive sur le stade de la Beaujoire, parce qu'elle sait qu'elle reste sur 6, 7, 8, 9 maintenant, et effectivement, les joueurs peut-être sont plus timorés, et tentent moins de choses, et puis font plus d'erreurs, et puis au final, perdent plus de matchs, et je suis, moi encore aujourd'hui, inquiet pour le match contre Lille la semaine prochaine.
Ouais. Et tiens,
ils ont quand même que 28% de possession de balle dans le match.
Ouais, oui.
C'est pas non plus.
Ce que je disais tout à l'heure.
C'est pas le nombre de Kogo Suédo. C'est ça. C'est mieux que les dernières semaines.
Il y a un plan de jeu aussi qui est peut-être plus adapté à l'extérieur, d'attendre bas et de partir vite devant. C'est ça. Juste pour conclure sur Nantes, j'aimerais qu'on dise un mot quand même de Mathis Sablin, qui est un joueur, moi je trouve, à chaque fois que je le vois, qui. Attention le mot, mais qui m'émerveille. Je trouve que je vois qu'il y a vraiment du ballon.
Oui, quand même.
Non, mais c'est technique, c'est rapide. Mais il y a aussi ce truc de devant le but, c'est plus compliqué. Patrick, toi, le supporter nantais, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu retiens plus ses ratés devant le but ou tu retiens tout ce qu'il est capable de faire avant?
Moi, je retiens tout ce qu'il est capable de faire avant parce que les ratés qu'il a eu aujourd'hui, il ne les a pas eu dans les trois matchs précédents où il a marqué à chaque fois. En plus, quand un attaquant, déjà, se crée des occasions, c'est qu'il est présent, il fait des bons appels. Donc à partir du moment où l'attaquant se crée des occasions, et on sait qu'un attaquant, il y a des périodes de réussite, il y a des périodes où le ballon qui d'habitude rentre 5 cm à l'intérieur, ben il est 5 cm à l'extérieur. Là, c'était un petit peu plus ce soir. Mais Abline est un joueur qui est en train d'énormément montrer de la qualité. Je suis même très, très surpris que les entraîneurs précédents qui étaient avant l'ont complètement ignoré, mais l'ont énormément ignoré. Là, il y a des choses qui m'échappent. Mais Abline, c'est un joueur, j'ose espérer que s'il en prête son lien, ça paraît pas trop mal parti, qu'on pourra le conserver, parce que moi, il m'épate.
Kevin, tu vois un peu...
Oui, c'est un joueur de qualité, comme dit Patrick. C'est vrai qu'un joueur qui se crée des occasions. Maintenant, il y a un moment, on est quand même en Ligue 1. Et, et il va être aussi jugé, non pas par les occasions qu'il se crée, mais par celles qu'il met au fond. Là, quand il dribble le gardien, alors il y a un peu de précipitation. Peut-être que le ballon, je sais pas, on n'a pas bien vu, est-ce qu'il y a un faux rebond, un truc.
Je crois même pas, malheureusement.
Mais, mais là, il doit tout simplement marquer. Et c'est pas marqué pour les stats, c'est marqué pour récompenser sa première mi-temps qui est très correcte.
23h17, merci Patrick d'avoir été là, bonne soirée.
Merci à vous,
à très
bonne
vite.
Soirée à vous.
À bientôt.
Salut Patrick.
Dans un instant, ouvrons le chapitre, et il peut être d'importance, je le sais, je vois les messages des Messins dans le chat de la chaîne YouTube. La victoire rennaise, 3-2, plus le carton rouge pour Mikotadze, qui va terriblement manquer contre Strasbourg la semaine prochaine, le 32-16. Si vous voulez réagir, oui, parce qu'on ouvre ce chapitre, c'est aussi un chapitre arbitrage, bien évidemment. 23h18, l'after est là en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz et Coach Courbis. Ça tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.